Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, on casse les clichés aujourd'hui dans Accent d'Europe, ceux d'un pays, la Suède, et de sa capitale, Stockholm, que l'on imagine tranquille et sans histoire. En réalité, le pays connaît une vague de violence sans précédent, et il ne s'agit pas d'un simple fait divers monté en épingle. Les sociologues ont observé une montée inédite des fusillades, en moyenne une par jour au cours de l'année écoulée, ce qui est justement la tendance inverse de tous les autres pays européens. Hier, la police a annoncé 250 arrestations en Suède et en Finlande dans le cadre de la lutte contre le crime organisé lié au trafic de drogue. Reportage dans la banlieue de Stockholm, signé Frédéric Faux.
La semaine dernière, à Rusla, une banlieue du nord-ouest de Stockholm, les habitants ont été réveillés par des détonations.
Hier, un peu avant minuit, j'ai entendu trois coups de feu. Pam, pam, pam. C'est un Érythréen qui a été tué par la mafia. Moi, j'habite là. Je ne peux plus sortir, c'est trop dangereux. J'ai peur, moi. Et tous les soirs, il y a des problèmes ici. Et la police, elle arrive toujours après la fusillade.
Bilal, un Irakien à la retraite, contemple la tache de sang qui sèche sur le parking, devant son immeuble. Il n'est pas le seul à ne pas reconnaître sa ville. Quelques heures auparavant, un autre homme a été tué par balle, en plein après-midi, au milieu des passants qui s'affairaient dans le centre de Husby, à seulement 3 km de là. Selon une étude du Conseil suédois pour la prévention du crime, sur les 20 dernières années, la Suède est le seul pays en Europe où la violence meurtrière par balle est en hausse. Et la tendance n'est pas prête à s'inverser. Au cours de l'année écoulée, les fusillades ont augmenté de 10% et on en a compté 366, soit une par jour. Elles ont fait 47 morts et 117 blessés. Le constat de Clara Radilova-Céline, auteure de l'étude, est sans appel.
Nous nous sommes comparés avec les pays d'Europe du Nord, de l'Ouest, de l'Europe centrale, les pays baltes, les Balkans, l'Europe du Sud. Et l'augmentation en Suède est tout à fait claire. Elle ne peut être observée nulle part ailleurs en Europe, dans aucun autre pays.
Depuis quelques semaines, la série suédoise Snabba Cash, qui raconte les coulisses du trafic de drogue à Stockholm avec ses règlements de compte en pleine ville, est un succès sur Netflix. Une fiction qui n'est pas si loin de la réalité. Comme dans Snabba Cash, Stockholm a détrôné Malmö, la grande ville du sud du pays, comme scène principale du crime. Dans la capitale suédoise, pour la seule année 2020, le nombre de fusillades a augmenté de 79%. Amir Rostami, sociologue de l'Université de Stockholm, qui étudie ces gangs depuis 20 ans, pointe aussi d'autres spécificités propres à la Suède.
C'est surtout un problème qui concerne la jeunesse. La Suède est le pays qui détient le record d'homicides pour la tranche des hommes de 15 à 29 ans. Cela concerne surtout des groupes qui sont nés dans nos banlieues, des réseaux très lâches. Ça peut par exemple être des amis d'enfance qui ont grandi dans le même quartier. Les conflits peuvent surgir à tout moment, que ce soit pour régler des querelles liées à la vente de drogue, mais aussi des problèmes très personnels. Par exemple, une fille qui change de petite amie, des gens qui se regardent de mal dans une fête. Et on arrive directement à la violence armée. C'est le problème. Le niveau à partir duquel on sort les armes est très bas.
Les auteurs et les victimes de ces violences sont souvent des immigrés ou fils d'immigrés. Et pour Amir Rostami, il n'y a rien de choquant à faire ce constat. Ces groupes se forment dans les banlieues et reflètent la composition sociale et ethnique de ces banlieues. Non, ce qui le surprend le plus, c'est l'état d'esprit de ces jeunes, plutôt désespérés.
Ils sont vraiment dans le court terme. Il s'agit d'être le roi d'un jour. Ce n'est plus comme avant où les gangsters avaient de grands espoirs pour le futur, devenir Tony Montana, faire beaucoup d'argent. Il s'agit surtout de survivre, de gagner de l'argent pendant un bref moment, car ils savent que c'est un business où l'espérance de vie est très courte.
À Rustla, l'inspecteur Frank Carlson, présent sur la scène de crime, en est donc réduit à compter les morts. Ce spécialiste de la prévention et du travail communautaire a accepté de nous livrer son sentiment à chaud.
On a trop de fusillades et bien sûr, à chaque fois, c'est une tragédie. Mais même si c'est triste à dire, comme policier, on ne peut pas dire qu'on est complètement surpris. La plupart des habitants voudraient plus de policiers. Mais ce n'est qu'un seul des 10 ou 20 problèmes qu'il faudrait régler dans ces quartiers, des problèmes économiques et sociaux. Ce serait trop simpliste de dire que pour tout régler, il faut juste plus de policiers et des peines plus sévères.
C'est pourtant ce que le gouvernement a décidé. Pour mettre fin à cette violence, il compte notamment sur un renforcement de l'effectif de la police, qui atteindra 38 000 en 2024, soit 10 000 de plus qu'en 2016.
Les Grünen haben zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin gekürt, Annalena Charlotte Almer Baerbock.
Les prochaines élections en Allemagne, le 26 septembre, pourraient bien provoquer la surprise. La perspective d'une jeune femme écologiste au poste de chancelière n'est plus du tout irréaliste. La députée de 40 ans, Annalena Baerbock, est aujourd'hui à la tête du Parti des Verts, qui est selon les sondages la deuxième, voire la première force politique. Le parti est un acteur politique majeur face au parti de droite, la CDU, affaibli par les divisions et le départ d'Angela Merkel. C'est donc peut-être l'heure du changement avec Annalena Baerbock. Son portrait est signé Anastasia Becchio.
Une candidature écologiste à la chancellerie, cela signifie une nouvelle approche de la politique, avec une équipe déterminée et transparente, capable d'apprendre de ses erreurs et de se soumettre à l'autocritique. La démocratie vit du changement.
Avec Annalena Baerbock, un vent de fraîcheur et de changement souffle sur la politique allemande. À 40 ans, la députée du Brandebourg, qui co-préside le Parti Vert depuis 2018 avec Robert Habeck, a fait une ascension fulgurante ces dernières années, comme le souligne Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll, qui a auparavant travaillé pour les Verts allemands au Parlement européen.
En seulement 3 ans, et ça c'est vraiment remarquable, elle est arrivée à devenir un des hommes et femmes politiques les plus populaires. En Allemagne.
Elle est quelqu'un qui veut s'améliorer tout le temps. C'est vraiment une bosseuse très dynamique, qui a beaucoup aussi de nouvelles idées, donc elle représente vraiment le renouveau en Allemagne.
Née en 1980, l'année de la création de Die Grünen, Annalena Baerbock a grandi dans une ancienne ferme près de Hanovre. Elle envisage un temps de devenir reporter de guerre, mais fera finalement un master en droit international public à Londres. Après un passage à Strasbourg en tant qu'assistante d'une élue verte au Parlement européen, elle change de trajectoire et gravit les échelons du parti. Elle est désormais candidate à la chancellerie avec un style qui lui est propre, Annette Lensing, maîtresse de conférences en études germaniques à l'université de Caen-Normandie.
Il y a déjà son grand humanisme, le fait aussi qu'elle mette en avant son statut de femme, de mère aussi, donc de fillette de moins de 10 ans. Donc il y a le côté, je dirais, très proche des gens. C'est quelqu'un qui a beaucoup valorisé son expérience, là aussi dans le contexte de pandémie, en tant que femme, donc la double contrainte de son travail, de ses responsabilités politiques, et puis de mère aussi, donc de l'école à la maison, son côté humain, et puis sa grande connaissance des dossiers. Donc sa rigueur, son ouverture au dialogue, aussi au compromis. Ça, je dirais que c'est l'autre force d'Annalena Baerbock.
Et des compromis, il va falloir en faire pour celles qui visent le poste de chancelière, de vice-chancelière ou de ministre des Affaires étrangères dans le prochain gouvernement. Annalena Baerbock a inscrit le parti au centre de l'échiquier politique allemand. Elle représente les réalistes, comme le rappelle sa collègue au Bundestag, la députée verte Franziska Brandner.
Elle a des clairs objectifs en termes de protection du climat, social, aussi Europe. Mais après, elle est flexible et pragmatique dans la manière d'y arriver. Et ça, je pense, c'est vraiment une combinaison de valeurs, d'objectifs, mais de pragmatisme dans la mise en œuvre qui est rare. C'est quelqu'un qui est capable de créer des alliances à travers les partis, à travers les acteurs de la société. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un très très grand atout d'Annalena d'avoir cette conscience, une autre manière de faire la politique.
Parmi les critiques régulièrement formulées à son encontre, Annalena Baerbock n'a pas d'expérience ministérielle, même au niveau régional. Une critique que la candidate des Verts balaye facilement.
Oui, je n'ai jamais été chancelière ni ministre. Je suis pour le renouveau. D'autres sont pour le statu quo.
L'argument pourrait faire mouche auprès de l'électorat allemand, estime Annette Lensing.
Dans le contexte justement de l'après-Merkel, la tendance est aussi au renouveau. Donc les sondages indiquent aussi que 6 Allemands sur 10 sont prêts justement pour ce renouvellement. Et donc elle justement articule très clairement son manque d'expérience avec son aptitude à incarner mieux que les autres candidats le renouveau de l'Allemagne.
D'autant qu'Annalena Baerbock a un mental de compétition. Elle a été championne de trampoline, triple médaille de bronze au championnat d'Allemagne. Mais cette fois, c'est c'est l'or qu'elle vise.
There's no fancy carpets or no telephone, but the one thing our house is a home. A stranger is always welcome.
Se loger en Irlande, c'est un véritable casse-tête, surtout pour les jeunes. Ils ont 6 fois moins de chances de trouver un logement que le reste de la population. La situation est particulièrement critique dans la capitale Dublin et la pandémie n'a rien arrangé. Emeline Vin nous dresse un tableau des prix toujours à la hausse.
Sur le bon coin local, 2000 euros par mois pour un F1 au centre-ville de Dublin, 1700 en périphérie. Ingénieur à Galway, Sean Hines gagne bien sa vie et pourtant, avec un budget de 500 euros, il a dû se résoudre à la colocation.
Avoir presque 30 ans, un bon travail et pourtant toujours vivre comme un étudiant, à partager une maison trop petite avec 5 inconnus, c'est pas vraiment le début de la vie professionnelle espérée.
Et dans les colocations, il faut souvent se battre pour obtenir une place. C'est pire que de postuler à un travail, sourit le jeune homme. Il a dû renoncer pour le moment à emménager avec sa copine à Dublin, où les loyers ont augmenté de 85% en 10 ans. Une situation tout à fait banale pour les jeunes professionnels d'Irlande, explique Ronan Lyons. Cet économiste à Trinity College publie chaque trimestre un rapport sur les tendances locatives.
Dans les pays d'Europe, en général, la moitié des logements sont des appartements. En Irlande, c'est seulement 15%. Du coup, le problème pour les moins de 30-35 ans, c'est qu'ils vivent dans des maisons à 3 ou 4 chambres qu'ils partagent avec des gens qu'ils ne connaissent pas, plutôt que de louer leur propre T1 ou T2, tout simplement parce que ça n'existe pas ici.
Des colocations, Peter Melrose en a connu plusieurs. À 32 ans, aujourd'hui, cet instituteur et sa compagne ont essayé d'acheter.
Nous, on recherche un pavillon avec 3 chambres, mais c'est ce que tout le monde recherche. Tous les gens de notre âge qui souhaitent fonder une famille. Nous, on est parti avec un budget de 350 000. Aujourd'hui, c'est plutôt 400. Et on pourrait penser qu'avec un budget de 400 000, on peut aller sur Internet et chercher des propriétés affichées à 400 000. Mais non. Il faut chercher des maisons à 320, 330 000 et s'attendre à ce que les offres grimpent de 50, 60, voire 70 000 euros.
À 400 000 euros, la maison, le couple a mis ses projets en suspens. Selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement, les prix à l'achat en Irlande sont 77% supérieurs à la moyenne européenne. Peter, qui suit le sujet depuis des années, voit plusieurs explications à l'explosion des prix. Déjà, la construction traîne. Il faudrait encore plusieurs années pour bâtir un nombre de logements suffisant et la pandémie a tout ralenti. Et puis, il est parfois impossible de rivaliser avec la demande et l'arrivée, il y a 10 ans, de fonds d'investissement étrangers.
On était intéressé par un lotissement en construction dans le comté voisin de Dublin. Il y avait 4 phases de développement. On avait demandé à être mis sur la liste d'attente après avoir raté la première. Et finalement, l'agent immobilier nous a informé qu'une compagnie d'investissement étrangère avait acheté tout le reste du lotissement, soit environ 170 logements.
Plusieurs semaines après, l'enseignant reste profondément amer. Aux origines de cette inaccessibilité, la crise de 2008, violente en Irlande. Barra Rountree, économiste à l'Institut de recherche économique et sociale, co-signe un rapport sur les inégalités générationnelles.
Traditionnellement, chaque génération bénéficie d'un meilleur niveau de vie que la précédente. Ce n'est plus le cas en Irlande pour les gens nés dans les années 80-90. 60% des gens nés dans les années 60 possédaient leur maison à 30 ans. Ça a diminué de moitié aujourd'hui, à 30%.
Quant au salaire, il stagne. C'est un cercle vicieux, les loyers flambent, impossible d'économiser pour un crédit et la pandémie risque de tout aggraver.
Ceux qui ont perdu leur emploi sont principalement les jeunes. Le chômage a augmenté de 14% dans leur tranche d'âge, contre 6% dans la population générale. C'est le second choc économique pour leur génération. La pandémie a vraiment le potentiel de faire des ravages parmi eux. Le gouvernement doit mettre en place des formations, doit résoudre le problème des logements et surtout construire davantage.
Une conséquence encore plus inquiétante pour le chercheur, la montée de l'insatisfaction des jeunes vis-à-vis de la démocratie, précisément à cause du blocage de l'ascenseur social.
Et pour notre chronique en un mot étranger que l'on vous décortique dans son contexte, nous avons choisi un mot dans l'air du temps, sobremesa. En espagnol, cela veut dire littéralement sur la table. En fait, la sobremesa est un art de vivre, un rituel, un moment de la journée à part entière. C'est ce moment où les convives ont terminé de manger et restent autour de la table, à la maison ou en terrasse. À Barcelone, Élise Gazangel a testé en réel les avantages et inconvénients de cette tradition.
À l'arrivée des beaux jours, trouver une table en terrasse à l'heure du repas devient compliqué à Barcelone. Souvent, les affamés qui n'avaient pas réservé se retrouvent à guetter les verres et assiettes vides. Mais en Espagne, lorsque les clients boivent leur café en fin de repas, cela ne signifie pas forcément que la table va se libérer prochainement, contrairement à ce qu'une Française comme moi pourrait imaginer.
Ah, grande erreur. Si les gens en sont au café, ça veut rien dire. Et pire, si c'est le week-end ou un jour férié, tu n'es vraiment pas pressé. Alors, après le café, tu peux prendre un autre café, un café avec digestif, un gin tonic, et tout s'enchaîne.
Ici, prendre son temps après le repas porte un nom, la sobremesa ou sobretaula en catalan, littéralement sur la table. Et ce moment est une véritable institution dans le pays. Chez soi, chez des amis, avec de la famille ou au restaurant, la sobremesa est indissociable de n'importe quel repas.
C'est là où se décide la politique du pays presque, pendant les sobremesas. C'est là où les gens échangent leurs opinions, se disputent, débattent entre eux, se mettent en colère. C'est là qu'ils rient. Il s'y passe plein de choses. Le repas, c'est juste l'introduction. Tout se passe pendant la sobremesa. Et quand tu vas à un repas de travail, en général, toute la partie travail se fait réellement pendant la sobremesa.
La règle est souvent la même. Pendant un minimum de 30 minutes et jusqu'à 3 ou 4 heures après avoir terminé de manger, la table est jonchée de tasses de café, petits gâteaux et bouteilles d'alcool fort. Personne ne se lève, ce serait mal vu. Et certaines sobremesas sont même des moments clés dans nos vies, comme la première rencontre avec les beaux-parents.
C'est le moment de l'interrogatoire parce que pendant le repas, les questions sont plutôt light. Raconte-nous, que fais-tu dans la vie ? Parce qu'à ce moment-là, on est en train de manger. Mais ensuite, le moment de la sobremesa, c'est réellement quand tu passes le test. Et ils m'ont posé plein de questions et je me suis rendu compte à ce moment-là que mon beau-père ne m'aimait pas. Là, tu te rends compte que la sobremesa, c'est même presque plus important que le repas en lui-même.
Mais avec la pandémie du Covid, cette tradition s'est peu à peu perdue dans les restaurants à cause des horaires restreints imposés par le gouvernement. Sandy Carrillo est responsable du No Cadanchu du quartier de Gracia.
Quand ils nous obligeaient à fermer à 15h, il n'y avait plus de sobremesa. Et ce qu'il y a de bien avec la sobremesa, c'est que quand ils terminent, ils prennent un verre, un deuxième. La sobremesa se transforme en fête et parfois ils enchaînent et finissent par dîner. Et ils y laissent évidemment de l'argent.
Alors pendant un temps au moins, les Espagnols ont sacrifié leurs traditionnels horaires tardifs pour préserver leur rituel.
Le soir, il y a eu un moment où les restos fermaient à 23h. Et ça, c'était un problème. Parce qu'à 23h, on te coupe la sobremesa. Ici, c'est normal de manger à 22h. Et donc, c'est court. Tu n'as que le temps de manger. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a avancé nos dîners à des horaires européens et on a commencé vers 21h pour avoir le temps pour la sobremesa, comme il se doit.
Désormais, les restrictions d'horaire ont été levées dans la plupart des régions du pays et les Espagnols reprennent leur débat habituel sur des nappes tachées. Le mot sobremesa est même entré dans le vocabulaire musical international il y a quelques semaines grâce au chanteur madrilène Zetangana qui s'est mis en scène attablé avec ses compères musiciens dans un concert sobremesa pour une célèbre plateforme musicale américaine. Parce qu'après les débats, la musique en famille est souvent le meilleur moyen de profiter d'une sobremesa.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.